On va parler à présent de l'événement de cet été. L'événement de cet été, c'est un film. C'est pas n'importe quel film, puisque c'est le dernier Christopher Nolan. Et c'est pas n'importe quel Christopher Nolan, puisqu'il s'appelle Oppenheimer, le père de la bombe atomique, l'essai cinématographique, pas seulement scientifique, est réussi. C'est un véritable carton au box-office. Seul Barbie arrive à faire aussi bien. Oppenheimer, c'est ça.
Si les nazis ont la bombe, ils ont 12 mois d'avance sur nous.
18.
Mais comment vous pouvez savoir ça?
Il nous reste un espoir.
En réunissant ici toute la puissance industrielle et l'innovation scientifique de l'Amérique, dans un laboratoire secret, personne n'en sortira avant que ce soit fini.
Allons recruter des scientifiques.
Laurent Ganassia est en ligne avec nous. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Bernard.
Laurent, il y a de quoi parler. Là, on va avoir du très très lourd, d'autant que Oppenheimer est un juif, qu'il se revendique comme juif, donc pour nous Radio Shalom ça nous intéresse encore plus, et que même ça joue un rôle important dans son rôle pour la découverte de la bombe atomique, puisqu'en fait il s'agit de contrer Hitler. Laurent, vous êtes conquis, vous êtes comme nous.
Je suis conquis à quelques réserves près, parce que c'est un film très long, mais on en reparlera
tout
à l'heure.
Raison. Ça, c'est vrai.
Mais c'est vrai que dans cette biographie qui a vraiment des relents de thriller politico-historique, Christopher Nolan, qui est quand même épaulé aussi par son génial comédien principal, hein, Cillian Murphy, dont le rôle-titre ne s'économise absolument pas pour nous tenir en haleine autour d'un suspense dont on ignore pourtant pas l'issue, c'est-à-dire la course contre la montre pour obtenir l'arme nucléaire avant l'Allemagne nazie. Et je pense que là où il fait très fort, c'est qu'il a parallèlement, et sous forme de flashback assez rythmé, d'ailleurs la première heure est d'une fluidité vraiment quasi chorégraphique, mis en lumière les incroyables soupçons de sympathie communiste qu'on prêtera aux...
Alors, c'est sujet après sujet, vous êtes d'accord Laurent, vous le dites vous-même, on verra ça après. D'abord dans l'ordre, on va, pour que les gens comprennent bien, moi je suis allé voir Oppenheimer en me disant bon je sais, c'est un personnage historique, mais il faut bien comprendre que c'est un personnage historique quasiment unique dans l'histoire. D'abord, on a retrouvé, il faut remercier Arnaud, on a retrouvé dans les archives de l'INA, Oppenheimer lui-même. Et fait extraordinaire, Laurent, il parle en français. Alors, je vous propose d'écouter d'abord ce qu'il dit.
Je crois que ce qui est unique pour le savant, c'est qu'il lui faut non seulement chercher la vérité, mais la proclamer.
Voilà donc Oppenheimer. Et je vais vous faire écouter maintenant comment le journaliste le lance, pour que vous compreniez que déjà dans les années 50, mais c'est juste pour qu'on sente l'ambiance, on comprenne de qui il s'agit.
Je crois devoir vous dire même que l'émission à laquelle vous allez assister ce soir n'est pas une émission comme les autres. Sans doute vous attendiez cela déjà à propos d'autres émissions, mais ce soir seulement c'est vrai. Ça n'est pas une émission comme les autres et voici pourquoi. D'abord c'est parce que l'homme qui est en ce moment à côté de moi, que vous allez voir dans quelques instants et que j'ai ce soir le redoutable et intimidant honneur de vous présenter, n'est pas un homme comme les autres. C'est, en effet, le professeur Robert Oppenheimer, dont je n'ai pas besoin de vous rappeler, j'imagine qu'il est le père de la bombe atomique, de la bombe A, et qu'à ce titre, c'est lui qui a ouvert cette ère atomique, cet âge atomique, qui sans doute, pendant longtemps encore, nous plongera alternativement dans l'angoisse et dans l'espoir.
Voilà. Alors, je pense que c'est très bien trouvé comme introduction de ce journaliste qui est face à Robert Oppenheimer, parce que, mais vous me dites si vous êtes d'accord avec moi, c'est tout l'enjeu du film. C'est comme ça que Christopher Nolan l'a compris, et apparemment, c'est comme ça que Oppenheimer lui-même a compris son rôle, et que Einstein a compris son rôle. C'est-à-dire, voilà, vous avez besoin de faire quelque chose parce qu'il faut arrêter Hitler. Mais il faut que vous sachiez une chose. Aucun être humain n'a ce pouvoir sans que ça fasse des ravages sur lui, sur sa psychologie, sur son mental, de prendre le risque de détruire la planète. Et vous le faites consciemment, et vous le faites sciemment. Heureusement qu'il n'aime pas la drogue, qu'il n'a pas de défauts majeurs, parce qu'on a donné toute la planète à un homme et à une équipe. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?
Je suis d'autant plus d'accord que la vocation du nazisme était de créer donc un empire de 1000 ans, hein, un Reich de 1000 ans, et justement de détruire à sa façon la planète également. Donc c'était une dualité finalement entre même pas deux idéologies, mais pour le cas quelque chose de un phénomène complètement binaire, hein, le bien contre le mal, même si le bien, on le saura, enfin on le devine évidemment, mais on le ressent dans le personnage et dans les doutes d'Oppenheimer, et bel et bien là, parce qu'effectivement, le film commence avec une citation assez... assez emblématique, hein, une citation qui fait appel à la mythologie grecque avec Prométhée qui décide de voler le feu sacré à Zeus pour le donner à l'homme afin de le rendre plus fort pour la survie de son espèce. Et la vengeance de Zeus sera terrible. Alors, qui c'est Prométhée donc, dans l'histoire? C'est évidemment Robert Oppenheimer. Parce qu'il a ce pouvoir, mais il est complètement rongé, et ça... C'est l'une des réussites, enfin des réussites, c'est en tout cas l'un des phénomènes du film que Nolan nous fait partager, au moins dans le dernier tiers, où finalement cette dualité entre le remords et le regret, le doute et le questionnement, la raison d'état et l'intime conviction, la conscience et le devoir, fait de lui de toute façon un homme. Le réalisateur nous rappelle finalement qu'en chaque génie, et à commencer par Robert Oppenheimer, sommeille toujours un enfant tourmenté qui a peur du noir, la nuit, et qui se demande si ce qu'il a fait est véritablement bien, même si on va le féliciter, même si on lui expliquera qu'il a pu ramener les GIs à la maison, qu'il a pu éviter le pire, il y a toujours ce questionnement, et on le ressent également avec les échanges qu'il a avec Albert Einstein lui-même, qui avait bien...
Ça, c'est géant, ça. Ça, les passages avec Einstein, c'est... Wow.
Ouais, ouais.
Parce qu'il faut comprendre que Oppenheimer, en fait, c'est un juif américain.
Oui.
Alors, il dit pas que l'essentiel... Il est américain, et les juifs américains, ils sont comme ça. L'essentiel de leur vie, c'est pas forcément leur judaïsme. Il ne réagit pas par rapport à ça, mais ça compte. Alors, au début, bon, Hitler monte pour aider un peu les juifs qui sont restés en Europe. Il est plus ou moins communiste. Il va à des réunions. Il n'a pas la carte du parti.
Ouais.
Mais voilà, il le dit d'ailleurs lui-même, il faut bien que je fasse quelque chose pour les juifs qui sont là-bas, donc on va lutter contre Hitler, il fait des réunions, on imagine qu'ils vont peut-être ramasser un peu de fonds et tout, et donc vraiment, sa judaïté joue un rôle pour lui, et un jour on lui propose ce truc extraordinaire, c'est ben voilà, vous allez faire, la seule chose qui, c'est d'ailleurs, il le dit lui-même, la seule chose qui compte aujourd'hui contre Hitler, c'est ce que vous allez faire vous maintenant, ils sont dans la course nucléaire, ouais. Il faut qu'on l'ait avant eux.
Exactement, c'est une course contre la montre. Et par rapport à ce que vous disiez sur son identité juive, moi, il y a une phrase qui m'a particulièrement interpellé, c'est que vers la fin du film, ou aux deux tiers en tout cas, quand il a cette conversation avec un autre officier américain sur les dangers de la bombe atomique et puis surtout sur cette course à l'armement, il explique que c'est important pour son peuple. Et il emploie le mot « peuple ». Il n'emploie pas le mot « religion », il n'emploie pas le mot « ethnie », il n'emploie pas le mot « communauté ». Et pourtant, c'était un juif qui était complètement laïque, hein, qui faisait partie d'une communauté ultralibérale. Et trop souvent, on entend l'identité juive ramenée donc à une religion, hein, en raison de sa race ou de sa religion. Non, c'est avant tout un peuple. Et le fait que Robert Oppenheimer, qui était vraiment l'exemple même du juif, entre guillemets, intégré, assimilé, comme on le voudra, mais qui a justement cette conscience dans cet état d'urgence, met en avant cette notion de peuple, a quand même quelque chose d'assez emblématique. Moi, c'est ce qui m'a aussi beaucoup interpellé dans le verbe.
Comme quand il engueule l'autre scientifique, il lui dit « mais tu sais bien que moi je fais pas ça ?» Il lui dit « bah si, tu vas le faire, parce que c'est la seule chose que tu dois faire. » Et il s'en va, et l'autre est obligé de dire oui. Il lui dit « bah si, t'es obligé. » Mais c'est marrant parce que quand vous m'avez parlé de référence au judaïsme, je me suis dit « bon, bah, il va me parler de cette réplique que je vais vous citer maintenant, et c'est pas ce que vous avez fait. » La réplique la plus emblématique, peut-être, c'est quand donc, l'officier lui dit « on a des chances de gagner cette course contre la montre ?» Il dit « oui, parce qu'on a un ami, c'est l'antisémitisme. » Alors l'office, hein, elle est belle, antisémitisme.
Ouais. Ouais, fait,
mais pourquoi, c'est quoi cette idée? Parce que Hitler pense que la bombe atomique, c'est une bombe juive. Parce que c'est que des juifs, en fait, les scientifiques. Einstein, lui, les autres, parce que c'est comme ça dans la société scientifique, voilà, ils sont un groupe de juifs qui travaillent sur ça et qui réussissent. Et Hitler, il dit non, mais ça, c'est une bombe de juifs. Il dit, ben, comme il va la délaisser, on va gagner un mois ou deux sur lui.
Mais vous vous souvenez, Bernard, que dans les années 30, une fois que Hitler accédait au pouvoir, mais que la Seconde Guerre mondiale n'avait pas encore commencé, beaucoup de professeurs d'université, beaucoup de scientifiques, enfin même pas de scientifiques, beaucoup de responsables allemands non-juifs ont été voir Hitler en personne, ont sollicité un rendez-vous avec lui, en lui disant « écoutez, mein Führer, ce n'est pas possible de nous débarrasser des juifs, parce que, en ce qui concerne dans les universités, etc., tout ce qui est relatif au domaine de la science, ce sont sont eux qui ont véritablement réussi les meilleures avancées. On ne peut pas se passer de leur analyse. Et Hitler, qu'est-ce qu'il a répondu ? Il a dit, dans ces cas-là, nous passons de la science. Techno. Voilà. Donc c'était déjà, comment dire, avant-gardiste par rapport au reste de l'histoire. Mais déjà, il avait eu cette réponse.
Que si c'est le même Hitler qui utilise tous les moyens, les seuls moyens qui n'ont pas été réduits en fin de Seconde Guerre mondiale, c'est ceux qui acheminaient les Juifs vers les camps de la mort. Alors qu'il avait besoin de trains, qu'il avait besoin d'énergie, qu'il avait besoin de charbon, et qu'il fallait tout envoyer au front. Lui, non, non, la seule chose qui compte pour moi, c'est de tuer des Juifs.
Exactement, c'était une obsession qu'on voit dans d'autres films, comme par exemple dans La Chute, dans tous les films qui sont relatifs aussi à la fin des...
Alors, il y a un phénomène qui va dépasser tout ce qu'on est en train de se dire et qui rejoint les aspirations du public et qui fait donc ce carton plein. Je répète, c'est... Je ne sais pas si vous avez vu, Laurent, les files d'attente devant le Grand Rex qui le joue en 70 mm. Vous savez que ça dépasse plusieurs immeubles de queue. Parce que
ils
traversent la rue, la file d'attente traverse la rue et recommence sur un autre immeuble.
Donc on voit... C'est très impressionnant.
Ouais, ils ne font pas la queue devant le cinéma. Ceux qui font la queue pour Oppenheimer, ils font la queue dans une autre rue. Parce qu'ils sont très très loin. Mais je crois que ça renvoie aussi, ça répond aux aspirations du public dans le sens où il y a aussi toute l'idée du scientifique qui a pris le risque de détruire la planète. Et là, on ne peut pas faire plus moderne. C'est exactement ce qu'on vit tous. On a tous au fond de nous-mêmes nous dire, mais la science, les scientifiques, nous-mêmes avec nos bouteilles de plastique, on a détruit la planète. Et lui, Oppenheimer, il se pose cette question. Il dit, est-ce que moi, j'ai le droit de faire ça ?
Oui, parce que finalement, ça, c'est du grand spectacle, c'est du tarlès, hein, comme on dit en hébreu, c'est du concret, mais vous mettez le doigt sur quelque chose de parallèle et qui n'est pas si innocent que ça. Moi, je discute avec des rabbins qui me disent que la planète, dans 30 ans, ce sera terminé. Des hommes de foi, hein, franchement.
Combien ils ont dit ?
Ils disent dans 30 ans, dans 40 ans, grand maximum, avec les migrants qui ne trouveront plus... comment se nourrir, comment survivre, etc. Tout ce qui est en train de se passer au niveau du réchauffement climatique, donc même eux le disent. Donc finalement, est-ce que c'est pas la destruction de la planète, est-ce qu'elle vient pas finalement de cette inconscience plutôt que de cette avancée technologique et scientifique ? Là aussi, c'est une dualité, un questionnement qu'on peut avoir, parce que c'est facile de mettre l'accent sur la folie des hommes, sur la guerre, sur le militarisme, mais en même temps, on est bien obligé de se défendre face à la folie des hommes, donc heureusement qu'il y a cette arme de dissuasion. Mais en même temps, sans avoir rien demandé aux scientifiques, regardez ce que l'homme est capable de faire avec la surconsommation, avec la négligence, avec des habitudes qu'on n'imaginait pas avoir aujourd'hui, qu'on nous impose de faire dans le cadre d'un état d'urgence. C'est vrai que ça questionne, malgré tout. Donc,
mais je pense que c'est pour ça que ça a marqué autant de jeunes.
Ouais,
parce qu'encore une fois, Nolan, il a tapé juste. Il tape avec ses obsessions à lui, le temps, par exemple. Mais... encore une fois, il coigne juste, il parle à l'humanité. Et on voit que dans le monde, moi j'ai vu le film à Prague, dans le monde entier, les gens se précipitent pour aller voir ce film parce que ça correspond à quelque chose d'extraordinaire. Alors, on ne va pas spoiler, Laurent, et si vous savez, j'en crève d'envie. Mais vraiment, j'en crève d'envie, à tel point que je vais spoiler avec vous, mais hors antenne. Mais là, à l'antenne, allez, je respecte les gens qui nous écoutent. Vous nous avez fait une réflexion qui semblait anodine, mais qui est fondamentale, et c'est trop long. Et moi, je trouve aussi que... Moi, j'ai trouvé trop long, mais je l'ai vu en anglais, sous-titré en tchèque, je vous garantis que c'est
une morflade
assurée. J'y ai eu droit.
C'est une épreuve, quelque part.
Mais il faut vraiment que ça soit Nolan, pour que je reste 3h30 dans la salle. Et ce que je voudrais dire, c'est que d'après moi, et j'attends votre avis, c'est pas le mien qui compte, c'est la dernière 2 minutes qui fait tout. Demi-heure qui fait tout. À partir de, je ne dis pas où, mais vous voyez de quoi je parle, jusqu'à la fin, jusqu'à même les 5 dernières minutes. En fait, c'est la dernière partie qui fait tout. Et est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Trop long, mais vraiment, à la fin, ça se dénoue.
Je suis d'accord. Il est certain que pour moi, les 3 premiers quarts d'heure sont vraiment très réussis parce que c'est très fluide, parce que malgré le foisonnement de personnages, on arrive quand même à resituer l'intrigue, à identifier donc à la fois les caractères des personnages et puis surtout leur enjeu. Et effectivement, la dernière demi-heure, elle est palpitante parce que bon, sans vouloir spoiler, il est clair que l'un des thèmes majeurs aussi du film, en dehors de cet acheminement vers la conception de la bombe atomique, c'est aussi les accusations envers Oppenheimer qui qui était soupçonné d'être plus ou moins un agent pour le compte de l'action soviétique, ou en tout cas un sympathisant communiste.
Le héros national, hein. Le voilà, héros national, celui qui a permis à l'Amérique de gagner la guerre, il se retrouve accusé d'être un agent soviétique.
Avec cette chasse aux sorcières et ses débuts du maccartisme qui révèle une époque absolument effroyable. On se souvient aussi, vous vous souvenez des époux juifs qui ont été condamnés à mort. Je ne me souviens plus exactement.
Rosenberg.
Les Rosenberg, hein, je crois, Ethel Rosenberg et son époux Julius, je crois, qui ont été condamnés à mort sur la chaise électrique pour intelligence avec ennemi, pour sympathie avec le Parti communiste. Donc c'est vrai que c'était une époque effroyable. Et effectivement, comme vous le disiez, dans la dernière demi-heure, on a l'impression de se retrouver dans un film à la fois de Costa Gavras et de Christopher Nolan, idéalement associés, parce qu'il y a à la fois le droit, il y a à la fois le thriller juridique, il y a à la fois le thriller sentimental, hein, parce qu'il est épaulé par sa femme qui ne comprend pas pourquoi il n'est pas plus convaincant et surtout pas plus combatif, hein, vis-à-vis de ses anciens amis et collègues qui l'ont finalement trahi. Et c'est vrai que ça pousse vraiment son pesant de pop-corn. C'est long, c'est pendant le milieu du film, on va dire qu'il y a une quarantaine de minutes, trois quarts d'heure qui sont extrêmement, difficile au niveau des dialogues, au niveau des personnages, au niveau de l'abondance des échanges. C'est vrai que c'est pas toujours facile à suivre et ça prend un petit peu la tête, comme on dit. Je pense que trois quarts d'heure de moins sur trois heures de film, ça ne l'aurait absolument pas amputé de quelque chose de miraculeux. Au contraire, ça l'aurait quand même, ça l'aurait peut-être allégé. Mais l'essentiel n'est pas là, parce que ça reste quand même, malgré tout, une démarche assez incroyable. Vous parlez aussi des jeunes. Mais pourquoi les jeunes ont aussi envie de découvrir ce film? Et pourquoi même nous, on a aussi envie de, puisqu'on est, pour nous, là, Hiroshima, etc., on l'a pas vécu. On a nos aînés ont assisté évidemment en direct à l'annonce de ces destructions de ces deux villes japonaises, mais nous on l'a su après dans les cours d'histoire, dans les témoignages télévisés, etc. Mais on n'arrête pas de nous dire depuis des années et des décennies que les prochaines bombes atomiques, à Dieu ne plaise, ont une capacité mais 50 fois, 100 fois, 300 fois, 500 fois plus forte.
Non, mais je vais vous dire autre chose. Donc, que j'ai pensé, moi, Laurent, j'ai pensé pendant le film un truc dingue. Je me suis dit, donc, la bombe atomique, telle que nous le présente Nolan, c'est un groupe de juifs qui ne font pas partie d'une confrérie, hein, y a pas de complot, mais c'est, voilà, un, il est universé là-bas, l'autre universé là-bas, un, il s'appelle Einstein, l'autre s'appelle Oppenheimer, ils ont tous la même angoisse pour les juifs européens, ils se téléphonent, faut faire quelque chose, l'armée américaine les contacte, leur dit, bon, ok.
Ouais.
On est en 2023, Laurent, est-ce que vous avez remarqué que cette même bombe aujourd'hui, elle menace de détruire Israël?
Oui, sauf
vous y avez pensé
que...
ou pas? Je me suis dit, tu te rends compte?
Non,
et maintenant, le danger majeur d'Israël, à part la haine entre gens, mais je pense que ça, ça va s'arrêter, c'est la bombe atomique. Je me suis dit, mais c'est dingue.
Alors, je vais vous surprendre, mais je n'y ai pas pensé. Pourquoi? Parce que moi, je ne pense pas du tout que le peuple iranien et surtout les dirigeants iraniens aussi, sont des fous furieux. Contrairement à Kim Jong-un, contrairement à Hitler et contrairement aux leaders nord-coréens. Kim Jong-un, je crois qu'il s'appelle, qui lui a l'air vraiment d'un frappadingue total et qui serait capable, lui, de l'utiliser. Moi, je pense que les dirigeants iraniens, d'abord, c'est un secret polichinelle. Moi, ça fait 20 ans, j'imagine que vous aussi, en tant que journaliste, que vous entendez la fameuse phrase « ils sont à deux doigts d'avoir, ils sont à deux doigts d'avoir, il ne reste que quelques temps ». Moi, ça fait 20 ans que j'entends la phrase « il ne reste que quelques temps ». Et je pense que dans 5 ans, dans 10 ans, on continuera toujours à entendre cette même rengaine. Bon, qu'il l'ait ou pas, je ne pense pas que ça change grand-chose dans la situation d'Israël, parce qu'on parle d'ogives par centaines en ce qui concerne Israël. Et je ne pense pas du tout que les Perses de tradition, qui n'ont jamais été les premiers à attaquer, et aussi bien le peuple est encore moins... Je crois que les dirigeants iraniens n'ont envie d'entamer une guerre qui, finalement, en plus, n'est même pas à leurs frontières. Vous voyez, c'est pas la guerre en Irak. Je pense qu'il y a beaucoup d'influence politique, il y a beaucoup d'influence religieuse. Mais franchement, une peur militaire, une crainte militaire, il faut évidemment l'avoir, hein, parce que l'histoire nous a toujours appris à faire attention aux paroles de nos ennemis, à les prendre très au sérieux. Mais je n'y ai pas pensé pendant le film. Pendant le film, je me disais que j'étais quand même heureux de savoir que des pays que j'affectionnais particulièrement, comme la France et Israël, étaient détenteurs de l'arme atomique, ça c'est certain. Mais penser au danger imminent éventuel pour Israël, non, ça ne m'a pas forcément effleuré l'esprit.
Eh bien. Allez, à propos de ne pas y penser, juste un petit spoiler, parce que c'est vrai que personne ne résiste à ce genre de tentation. Donc, Oppenheimer regarde le président américain, lui dit « Monsieur le président, j'ai du sang dans les mains. » Et Truman lui répond « Monsieur, celui qui a reçu la bombe sur la tête, il s'en fout complètement de qui l'a inventé. Il veut savoir qui l'a fait tomber. Et celui qui l'a fait tomber, c'est moi. »
C'est moi. Ça, c'était une phrase grandiose. Je ne sais pas si elle est vraie ou pas.
Incroyable. Je ne sais pas si elle existe. Peut-être elle est vraie. Hein.
Ouais, il faudrait en reparler avec Nolan et suivre un peu les interviews. Mais c'est vrai que cette scène avec le président américain a été véritablement une grande réussite.
Monsieur Oppenheimer, celui qui a reçu la bombe atomique se fout complètement de savoir qui l'a inventé. Il veut savoir qui l'a fait tomber. Et en anglais, on dit to drop. He wants to know who dropped it.
And et vous souvenez de la dernière phrase du président à son secrétaire quand Oppenheimer quitte le bureau.
Non.
Il dit d'un ton méprisant à son secrétaire, ne me ramenez pas ce scientifique raté dans
ce
mon
guignol.
Bureau. Quoi. Pas ce guignol dans
mon
bureau.
Ne me ramenez pas ce guignol dans mon bureau. Ouais. Allez.
Ouais.
D'ailleurs, je crois que la plupart des auditeurs, si je n'ai pas dit c'est Truman, ils ne sauraient pas qui c'est. Et tout le monde sait qui c'est Oppenheimer. Bah oui, donc il avait raison, ce président. C'est Oppenheimer est un guignol. Bravo. Allez, Laurent Ganassia, on ne pourra faire qu'une chose, c'est qu'après Tisha B'Av, proposer aux auditeurs d'aller voir Oppenheimer, parce que c'est un grand Nolan. Et puis parce que vive le cinéma. On ne parlera pas de Barbie ce soir, parce qu'on ne va pas faire cette injure à nos auditeurs. Et pourtant, il paraît que c'est un excellent film.
Je ne l'ai pas encore vu, mais c'est vrai que je n'en entends que du bien.
Que du bien. J'aurais pas donné un centime. Je suis ringard, mais voilà. La bombe atomique, l'histoire, la seconde, tout de suite. Barbie, il a fallu qu'on me le dise. Et ben pourquoi pas, mais je ne sais pas tout. Laurent Ganassia, je vous remercie. Bonsoir.
Merci à vous, Bernard. À bientôt.